Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des dangers de l'intégrisme religieux au travers d'un message que m'a envoyé un auditeur et que j'ai trouvé très intéressant et aussi très révélateur de la situation actuelle. Pour ceux qui attendaient avec impatience la suite consacrée à la guerre civile, notamment les guerres civiles libanaises et algériennes, un peu de patience, je traiterai le sujet dans la prochaine vidéo. Je voulais initialement parler de ces deux sujets aujourd'hui, mais je me suis dit que ça serait beaucoup trop long, trop compliqué à structurer dans un seul et même podcast. Donc la suite de l'épisode guerre civile sera développée dans le prochain audio. Et sans plus tarder, voici le message que m'envoie mon auditeur. Salut l'observateur, je suis l'un de tes contributeurs sur Patreon, j'ai 22 ans et j'habite dans une banlieue parisienne. Je ne t'écris jamais, mais j'écoute tous tes podcasts sur Patreon et sur YouTube. Comme je le dis plus haut, je suis issu d'une banlieue parisienne où s'affirmer est très compliqué. La culture musulmane prédomine dans mon environnement, j'ai observé bon nombre de mes amis se convertir à l'islam alors qu'ils étaient chrétiens à l'origine, d'Afrique ou des Antilles. Je n'ai vraiment aucun problème avec ça, le souci est que les gens de mon entourage se convertissent en masse alors qu'ils ne connaissent vraiment pas grand-chose en matière de religion, sans parler de l'islam, et ces conversions de masse m'ont toujours intrigué. Étant issu d'une famille chrétienne, je me suis avec le temps largement détaché de cette doctrine et je remets en question les religions d'une façon générale, et je précise tout cela afin que tu puisses comprendre le contexte. Alors, voici mon problème. J'ai un petit frère de 12 ans qui est actuellement en 6e au collège. Depuis qu'il y est, il ramène toujours des problèmes à la maison, plus ou moins graves. Mais récemment, pendant le cours de maths, son professeur a pris son cahier pour vérifier un exercice. Et il y a trouvé la mention « Allahu Akbar ». Le professeur scandalisé a décidé de virer mon petit frère de son cours et l'histoire finit par une convocation à la police la semaine suivante. Je suis très peiné par cette situation car je me vois à travers lui, cet adolescent un peu perdu, en quête d'identité et sans repère, ne sachant où aller. Je n'avais pas de grand frère, un père débordé qui travaille énormément et par la force des choses se charge de moins en moins de notre éducation, une mère au foyer qui ne maîtrise pas vraiment les rouages de notre société moderne, et qui donc a aussi du mal à nous orienter, à nous encadrer. En bref, je suis l'aîné qui doit se charger de montrer le chemin à mon frère, sauf que même étant passé par tout ça, j'ai du mal à l'orienter, à part lui crier dessus, le bousculer parfois, je ne sais pas comment l'aider, lui expliquer les choses, lui donner le goût de la lecture. Et surtout, chose la plus importante, ne pas le laisser se faire endoctriner par la religion. Mais comment lui expliquer? Je voulais supprimer ce message à plusieurs reprises en l'écrivant, mais je me suis dit que tu dois sûrement avoir une solution ou des pistes pour m'orienter. Merci pour l'intérêt que tu porteras à ce message. Pour commencer, je souhaitais dire qu'il est très intéressant pour moi d'avoir l'avis d'un insider, de quelqu'un qui vit dans les banlieues, parce que personnellement, c'est un monde que je ne connais pas. J'ai passé ma jeunesse à Rouen-Rive-Droite. Rouen-Rive-Droite, c'est une petite ville tranquille et très bourgeoise. Rouen-Rive-Gauche, c'est autre chose, hein, c'est plutôt le tiers-monde. Il y a une vraie ségrégation entre Rouen-Rive-Droite et Rouen-Rive-Gauche. J'ai aussi habité Mont-Saint-Aignan, Bois-Guillaume, qui sont des communes très huppées. Et donc la question des banlieues, de l'immigration, c'est pas quelque chose... ou une chose à laquelle t'es confronté quand t'habites Bois-Guillaume, qui est l'une des communes les plus riches de France. Pour vous donner une idée, le seul étranger 5 km à la ronde, c'était l'agent de sécurité du carrefour Mont-Saint-Aignan. C'était le seul black que tu croisais dans les années 80-90. Les choses ont peut-être changé depuis, mais voilà. Et du coup, je ne connais pas vraiment la question des banlieues françaises. J'ai un peu découvert ça en allant travailler à Paris. J'ai découvert les banlieues françaises aussi au travers d'Internet, de YouTube, de la musique, du rap, des faits divers. Mais c'est pas quelque chose auquel j'ai été directement confronté. J'ai jamais habité dans une barre d'immeuble, j'ai jamais traîné en bas d'une cage d'escalier. Et je souhaitais commencer en disant que ce type de témoignage m'intéresse beaucoup parce que c'est un témoignage de quelqu'un qui vit dans les banlieues, qui vit au quotidien dans une banlieue parisienne. Et donc, lorsqu'il me dit qu'il y a un phénomène d'accélération des conversions à l'islam, ben je suis tenté de le croire. Et c'est surtout une information qu'il faut écouter et à laquelle il faut donner beaucoup d'attention. Pourquoi autant de conversions? Pourquoi des non-musulmans se mettent d'un seul coup à se convertir? Qu'est-ce qui se passe dans les banlieues? Et on va en parler très largement dans ce podcast. Et d'ailleurs, la radicalisation en France et en Europe, d'une façon générale, inquiète le monde musulman. Vous allez me dire, c'est paradoxal, des musulmans qui s'inquiètent de la radicalisation. Mais en fait, faut comprendre que les premières victimes du terrorisme, les premières victimes de l'intégrisme islamiste, c'est les musulmans. Le terrorisme n'a pas fait énormément de morts en Europe. On a eu des attentats ici et là, mais ça se compte en quelques centaines. Mais les dégâts de l'intégrisme islamiste et du terrorisme, ça a surtout été fait dans le monde musulman. D'ailleurs, j'avais écouté une conférence en anglais où c'était un des princes des monarchies pétrolières, je pense que c'était les Émirats, je ne saurais plus me rappeler de son nom, qui avait dit être inquiet de la radicalisation qui est en train de se passer en Europe. Vous imaginez un émirati musulman qui dit « Nous sommes inquiets de la radicalisation islamiste de l'Europe ». Et ça, c'est la première red pill géopolitique que je souhaitais donner. Encore une fois, je me suis donné une mission de nettoyer les esprits du zémourisme. Quand les zémouristes disent « il y a la guerre des civilisations, les musulmans contre les chrétiens », les musulmans sont en train de combattre le terrorisme islamiste. Ils savent ce que c'est parce qu'ils l'ont vécu dans leur chair. Et j'avais vu une autre vidéo, cette fois-ci c'était un général algérien à la fin de la guerre civile qui avait fait une conférence pour expliquer ce qui était en train de se passer pour faire une mise à jour. Et c'était à la fin de la guerre civile algérienne, c'était en 2002. Cette guerre civile a duré de 1989-90 à 2000-2001 jusqu'en 2002. Il y a eu des attentats ici et là jusqu'en 2004. Mais en gros, vers 2002, au moment de cette conférence, le terrorisme en Algérie était maîtrisé. Et il avait dit quelque chose de très intéressant, c'était le général d'état-major de l'armée algérienne à l'époque, et je pense que tout le monde devrait en prendre de la graine. Il a dit « Nous avons vaincu le terrorisme, mais l'intégrisme est intact. »
Fort de ce soutien international, les généraux algériens décident de sortir de l'ombre. À Alger, les téléspectateurs n'en croient pas leurs yeux. Mohamed Lamari, le chef de l'armée depuis 10 ans, répond pour la première fois aux accusations devant les caméras de la télévision.
« Nous avons dit aussi que nous avons vaincu le terrorisme. Même s'il continue à tuer de nos citoyens, mais le terrorisme est vaincu. Par contre, l'intégrisme est intact. C'est une lutte d'abord à caractère politique, à caractère économique. Celle-là, malheureusement, elle n'a pas encore atteint ses objectifs.
Nous avons vaincu le terrorisme. Mais l'intégrisme est intact. Et pour faire une petite parenthèse sur l'Algérie, je parlerai de cette guerre civile dans le prochain podcast. Ce qui a sauvé l'Algérie, c'est le fait que l'armée algérienne n'ait pas été contaminée par l'islamisme. Les généraux algériens ne sont pas des islamistes et la plupart sont des bons vivants qui boivent de l'alcool et qui tapent des putes. Et s'il y a des gens dans les commentaires qui sont tentés de me dire « Mais non, l'observateur, tu dis n'importe quoi, c'est pas vrai », les généraux algériens, d'une façon générale, sont les meilleurs collectionneurs de whisky de la planète. Et je le sais parce que j'avais un ami en école d'architecture qui était étranger, qui était algérien, qui faisait ses études en France, qui était de mère russe et de père algérien. Son père était un militaire, un ancien pilote de MiG-29 qui était ensuite devenu colonel. Faut savoir que l'armée algérienne, c'est une armée russe. C'est aussi simple que ça. Tout l'armement est russe. MiG-29, MiG-30, MiG-31, Sukhoi. Tout l'armement est russe. Les militaires sont formés en Russie. Ils épousent aussi des femmes russes. Hein. Beaucoup de militaires sont mariés à des Russes. Et donc lui, c'est le résultat de cette alliance entre le militaire algérien qui était allé étudier en Russie, qui rencontre cette femme, et lui s'appelait Farid. Et c'était en hommage à un gardien de but de l'équipe de football soviétique. Alors, je suis pas allé vérifier, hein, je suis pas particulièrement fan de l'équipe de foot soviétique, mais apparemment, c'était l'un des gardiens de but de cette grande équipe de foot. Et c'est lui qui m'a raconté ça. Il m'a dit, ce qui a sauvé l'Algérie, ce qui a fait que l'Algérie s'est pas devenue l'Afghanistan, c'est que l'armée, avec tous ses défauts, d'accord, c'est une armée avec les généraux sont suspectés, même plus que suspectés, c'est une réalité, de corruption, de trafic, de business. Voilà, ils utilisent beaucoup leur pouvoir pour faire du commerce, pour faire de l'import-export. Ils sont tous millionnaires, milliardaires. Mais il me dit, avec tous ses défauts, cette armée a une seule qualité, c'est qu'elle n'est pas islamiste, qu'elle déteste les islamistes et qu'elle a fait la guerre aux islamistes pendant 10 ans. Et c'est pour ça que cette vision un peu débile des zémouristes qui disent « il y a nous, les Occidentaux, qui combattons le terrorisme et il y a les pays musulmans qui sont islamistes » est complètement débile. C'est la vision de quelqu'un qui passe sa vie dans un canapé à regarder CNews, qui n'a jamais mis les pieds à l'extérieur, qui n'a jamais pris un avion, qui ne s'est jamais baladé en Orient, en Afrique du Nord, dans des pays musulmans et qui n'a jamais compris quelle était la réalité des pays musulmans. La réalité de la majorité des pays musulmans qui ont vécu le terrorisme, c'est de défoncer la gueule à tous les islamistes. Tous les gouvernements aujourd'hui, que ce soit Algérie, Maroc, Tunisie, Syrie avec Bachar al-Assad, tous ces gens-là sont en train de défoncer du terroriste matin et soir. Tous ces gens sont en train de combattre de l'intégrisme matin et soir, beaucoup plus qu'on ne le fait en Occident. Pourquoi ? Parce que eux ne fantasment pas l'islam, ils savent ce que c'est. Un commandant algérien qui a passé 10 ans de sa vie à combattre ses fils de pute dans les maquis sait très bien ce que c'est. Il sait ce que c'est qu'un djihadiste. Il sait que c'est une petite frappe qui égorge des femmes, des vieux et des enfants. Il sait qu'un djihadiste, c'est un petit fils de pute sans foi ni loi qui égorge des innocents. Chose que nous, en Europe, on n'a pas vécue. On ne l'a pas vu. On ne sait pas ce que c'est. Donc la réalité du monde musulman, c'est des musulmans culturels qui pratiquent l'islam depuis des siècles et qui savent très bien faire la différence entre l'islam culturel et l'islam qui dégénère. Entre l'islam culturel que tout le monde pratique tranquillement de manière apaisée et l'islam wahhabiste, l'islam salafiste, fabriqué, importé d'Arabie Saoudite, qui est une idéologie toxique et qui est un cancer qui ne fait que se métastaser. Il n'y a pas de solution avec les islamistes. C'est quelque chose que les Russes ont compris quand Poutine dit « je leur ferai la chasse jusque dans les chiottes ». Poutine et les Russes aussi ont été confrontés à la montée du radicalisme. Et donc, tous ces gens-là ne fantasment pas l'islam ni l'islamisme. Ils savent très bien ce que c'est et ils savent très bien ce que ça donne quand ça dégénère. Et ils savent aussi que la seule réponse possible face à la montée de l'intégrisme, c'est pas le dialogue, c'est pas la négociation. La seule réponse possible face au fondamentalisme religieux, face à l'intégrisme, c'est de leur défoncer la gueule. La seule réponse possible, c'est, comme l'a fait l'armée algérienne, de les terminer un par un à la Kalachnikov. C'est violent ce que je dis. Mais là, il ne s'agit pas de discuter une idéologie, il ne s'agit pas de discuter une religion, il s'agit d'affronter des gens qui égorgent des innocents. C'est de ça qu'on parle. Si le petit gauchiste mélenchoniste a des scrupules à affronter l'intégrisme religieux, je peux te dire que le gars en face qui a décidé de t'égorger, il va le faire. Et il n'aura aucun scrupule à le faire. Et si t'as un doute, va discuter avec des militaires algériens, va discuter avec des militaires syriens, va discuter avec des militaires russes qui ont fait face à ces gens-là, et ils vont te dire qu'est-ce qu'un intégriste, qu'est-ce qu'un djihadiste, qu'est-ce qu'un islamiste. Donc, point numéro 1 à comprendre, le monde musulman est en lutte contre le terrorisme beaucoup plus que le monde occidental. Autre raison pour laquelle cette radicalisation en Occident fait peur aux pays musulmans, c'est que les pays musulmans ont digéré l'islam. Ils pratiquent un islam culturel, ils savent ce que c'est, et ils ont fait le travail sur la question du radicalisme. Je vais prendre un exemple. Quelqu'un qui n'est pas de culture musulmane, qui se convertit, qui découvre des textes du type « il faut tuer les mécréants ». Ben, le problème, c'est que comme il n'a aucune autre grille de lecture, il va prendre le texte et il va se dire « voilà, la religion me dit « faut tuer les mécréants, je vais aller tuer les mécréants ». Quelqu'un qui est de culture musulmane, quelqu'un qui connaît l'islam depuis plusieurs générations, qui s'est intéressé à ce que disent ce qu'on appelle les oulamas. les oulamas, c'est les penseurs, les sachants de l'islam, qui ont analysé et qui ont surtout contextualisé le texte, parce que le texte brut ne veut rien dire. Et donc la question de tuer les mécréants ou la question du djihad, le prophète de l'islam le fait dans un contexte. Le contexte dans lequel il a été chassé de la Mecque par sa propre tribu, il a été obligé de faire ce qu'on appelle la hijra, il s'est sauvé à Médine et il est revenu 8 ans plus tard avec une armée pour reprendre la ville et pour reprendre la Kaaba. La Kaaba ou la Mecque qui a été construite par Abraham selon le dogme abrahamique monothéiste, qui était devenu sous contrôle des Arabes un endroit pour adorer les idoles. Les Arabes étaient des tribus polythéistes qui adoraient toutes sortes d'idoles, des objets, des statues. Et ce que faisait, ou ce qu'a fait Mohammed, ce qu'a fait le prophète de l'islam, c'est de redonner son caractère de lieu de prière monothéiste à la Kaaba. C'est dans ce contexte qui fait la guerre et c'est dans ce contexte qui fait le djihad. Et les savants de l'islam, entre guillemets, qui contextualisent la question du djihad, la question de tuer les mécréants, etc., expliquent que hors de ce contexte, ça n'a aucun sens. Et c'est pour ça que dans tous les pays musulmans, si vous voyagez en Égypte par exemple, si vous faites du tourisme et vous demandez à un Égyptien « Toi musulman, est-ce que tu tuerais un mécréant ?» Ben il te répondra « Non, non, le contexte ne s'y prête pas. On se met pas à tuer des mécréants à tort et à travers. » Et d'ailleurs, ça veut dire quoi un mécréant ? La majorité des Occidentaux ne sont pas mécréants, c'est des chrétiens. Il y a très peu de mécréants en réalité. Tous les Occidentaux sont ou de culture catholique ou de culture protestante. C'est-à-dire que à un moment, même l'idée de dire « on tue les mécréants » est complètement fausse. Tuer un Français, c'est pas tuer un mécréant, c'est tuer un chrétien. Et c'est tuer quelqu'un qui appartient à ce qu'on appelle les peuples du livre. Il y a une distinction en islam entre le mécréant, qui est le kafir, pluriel, koufar, ceux qui ne croient pas du tout ou qui ne croient en rien. Et il y a une autre distinction qui est faite avec Al-Al-Kitab. Al-Al-Kitab, le peuple du livre ou les peuples du livre. Al, en arabe, c'est peuple. Kitab, c'est livre. Et les peuples du livre, c'est les chrétiens et c'est les juifs. Et donc, il y a en islam un respect qui est dû au peuple du livre. Donc, même cette histoire des fondamentalistes qui tuent des Européens, finalement, ils tuent des gens qui appartiennent au peuple du livre et leur combat est de ce fait, même du point de vue religieux, je ne suis pas un religieux, j'en ai rien à branler de ce qui est écrit dans le Coran, je vous ai dit ce que j'en pensais, c'est de la merde du début à la fin, désolé si je vous choque, mais c'est mon avis, hein, le blasphème n'est plus interdit au XXIe siècle, donc je ne parle pas comme un religieux, je parle comme quelqu'un qui a analysé les textes et qui vous dit... Même si on est tenté de raisonner comme un musulman, la question de tuer le chrétien, de tuer le juif, ne tient pas la route. Et pour revenir à la question des gamins de banlieue, leur problème, ou des musulmans d'Europe d'une façon générale, leur problème c'est qu'ils n'ont aucun contexte. Ils n'ont aucun contexte, le seul contact qu'ils ont, c'est Internet, c'est des imams complètement débiles dans les mosquées, hein, pour faire ou pour être imam, faut pas avoir été très brillant à l'école, hein, quand tu fais imam, c'est que t'as pas pu faire maths, physique, informatique, même les branches littéraires du type langue étrangère, droit, t'étais pas assez bon pour ça, quand tu fais sciences théologiques, c'est pas que t'es un déchet, c'est que t'es le déchet des déchets, des déchets, des déchets. Donc, l'imam à la base, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est quelqu'un qui est en échec scolaire. Tous les imams, à la base, c'est des gars en échec scolaire. Et ils se retrouvent au poste d'imam à enseigner la religion à plein d'autres jeunes. Donc, ça, faut bien vous le mettre dans la tête. S'il y a des jeunes qui m'écoutent et qui se sont fait endoctriner par des imams, un imam à la base, c'est un débile. Si tu fais informatique, si tu fais des études sérieuses, ton niveau intellectuel est supérieur à celui de l'imam, donc tu ne devrais pas l'écouter. On n'écoute pas les gens qui sont inférieurs à nous, on ne doit écouter que les gens qui sont supérieurs à nous. Et tous les imams sont inférieurs à nous, tous. Aucun imam ne m'apprendra la vie. Un imam, si je rencontre un imam, c'est quelqu'un qui ferme sa gueule, qui s'assoit et qui m'écoute. Parce qu'il a rien à m'apprendre. J'ai vécu 200 fois ce qu'il a vécu, et j'ai vécu ce qu'il ne vivra jamais. J'ai vu plus de choses que lui, je parle plus de langues que lui, j'ai vu plus de pays que lui, plus de contrées que lui, plus de gonzesses que lui. Qu'est-ce que tu veux qu'il m'apprenne ? La sourate numéro 34, tu te la prends et tu te la carres dans le cul. Si un imam m'interpelle avec son livre, ses textes, ses machins, je lui dis, tu prends tout ton dogme, tes livres, tes sourates, tes hadiths, tu les prends, tu te les carres dans le cul et tu dégages. Tu n'as rien à m'apprendre. J'ai pas étudié le grec, le latin, l'anglais, l'espagnol, l'arabe, peut-être un jour l'araméen, pour écouter un débile comme toi. Je t'éclate intellectuellement matin et soir, donc ne me raconte pas ta diarrhée. Et pour revenir à ce que je disais, la raison pour laquelle l'islam dans les pays musulmans est apaisé, quand vous allez faire du tourisme au Maroc, en Égypte, bon, vous n'avez pas l'impression qu'on a envie de vous égorger dans la rue. Parce que l'islam culturel, ou l'islam des pays musulmans, a des références, a des oulamas, a des savants qui ont fait le travail de contextualisation, et donc qui arrivent à faire la nuance, qui arrivent à comprendre un texte dans son contexte. Et ne tombe pas dans des aberrations du type « il faut aller égorger les mécréants, il faut aller tuer un tel et un tel ». Donc voilà, voilà pourquoi les pays musulmans sont plus apaisés, ou l'islam des pays musulmans est plus apaisé, plus tranquille que l'islam d'Europe, parce que l'islam d'Europe a tendance à la radicalisation, parce qu'il n'a aucune autre référence que les textes. Le gamin de 12 ans qui rencontre un imam ou qui tombe sur un forum, pour reprendre l'exemple de mon auditeur, son petit frère à 12 ans, où est-ce qu'il a appris Allahu Akbar ? Il est chrétien à la base. Où est-ce qu'il a appris ça ? Allahu Akbar, ça veut dire Dieu est grand. Allah, Dieu, Akbar, grand. Ou plus précisément, le plus grand. Grand, c'est Kabir, Kabir en arabe, et Akbar, c'est plus grand. Où est-ce qu'il a appris ça ? Il n'y a pas beaucoup d'endroits pour l'apprendre. Internet, la cour de récré, l'école, le lycée. Et la différence entre ce gamin de culture chrétienne qui vit dans une banlieue française et un gamin qui vit dans un pays musulman, c'est que ce pauvre gamin qui vit en banlieue, quand il rentre chez lui et il dit à sa mère « Maman, aujourd'hui on m'a dit il faut que tu tues les mécréants ». Sa mère, à la base, elle est débordée, c'est ce que me dit l'auditeur. Le problème aujourd'hui, c'est la démission des parents. Son père travaille beaucoup, donc il n'a plus l'énergie pour s'occuper de ses gamins. Il rentre, il est claqué, il a envie de bouffer, il se douche et il dort, j'imagine. Et la mère, qui a le temps pourtant, parce qu'elle est mère au foyer, est déconnectée de tout ça. Elle comprend pas ce genre de choses. Elle n'imagine pas ce qui est en train de se passer. Elle ne se dit pas qu'il y a des gens qui sont en train d'endoctriner mon gamin, qui sont en train de lui mettre du caca dans la tête, qui sont en train de lui raconter des textes du 14e siècle, ou plutôt vieux de 14 siècles, qui lui expliquent comment vivre aujourd'hui. Elle est à mille lieues de s'imaginer ce qui se passe dans les écoles. Et donc, elle ne peut pas encadrer son gamin parce qu'elle ne sait même pas ce qui se passe. Elle fait la cuisine, les courses, le ménage. Elle se dit, mon gamin, il va à l'école de la République. Donc, il apprend des maths, de la physique, de l'anglais, de la philosophie. Il se remplit le cerveau avec des choses intéressantes qui feront de lui plus tard un homme. Elle n'imagine pas qu'on lui met du caca dans la tête du matin au soir. Elle n'imagine pas qu'il rencontre d'autres gamins, d'autres personnes qui lui racontent de la merde et qui l'endoctrinent. Donc, la démission des parents n'aide pas. Quand t'as des parents qui font le travail à la maison, moi, quand j'avais 12 ans, si je rentrais à la maison et je disais à mon père, tiens, aujourd'hui, on m'a dit, faut tuer les mécréants, il m'aurait foutu une tarte dans la gueule monumentale. J'aurais encore la trace aujourd'hui sur le visage. Il m'aurait massacré. Il m'aurait dit, je t'envoie pas à l'école pour apprendre ces conneries. T'as eu combien en maths? T'as eu combien en physique? T'as eu combien en anglais? Qu'est-ce que c'est que ces conneries de djihadistes? D'où ça sort ces conneries? Fin de l'histoire, j'aurais plus jamais parlé de ces choses-là. Quand t'as des parents qui font le travail à la maison, il y a très peu de chances que tu tombes dans ces délires. Ce qui mène à ça, en général, c'est la démission des parents. Ils sont débordés. T'as des pères, ils sont tellement débordés, tu serais orphelin, c'est la même chose. Ils seraient morts, c'est la même chose. À se demander des fois si c'est pas mieux qu'ils soient morts. T'as des pères, tu les vois avec leurs gamins, tu te dis, toi, putain, toi, à la limite, vaut mieux que tu n'es jamais existé. C'est quoi ton rôle? Qu'est-ce que tu es en train d'offrir à l'humanité? Un djihadiste? Tu es en train de nous fabriquer un djihadiste? C'est ça que tu es en train de faire? C'est ça ton héritage, le don que tu vas donner à l'humanité? Et je souhaitais ajouter qu'en plus des parents, ben les profs ne sont pas de niveau, les profs n'ont pas le niveau. Qu'est-ce que c'est que ce prof qui dénonce un gamin de 12 ans? Il l'a viré de sa classe, il n'a pas essayé de comprendre, il n'a pas cherché à comprendre. Et en agissant ainsi, il a peut-être créé un djihadiste. Sans le savoir, ce prof qui a viré ce gamin de 12 ans qui finit avec une convocation à la police, sans le savoir, il vient peut-être de créer un djihadiste. Ce petit prof de merde, homme soja élevé aux graines, vient peut-être de nous fabriquer un futur terroriste. Pourquoi ? Parce que, à la base, t'as déjà un gamin qui est en colère. T'as déjà un gamin qui en veut à la terre entière. Il a déjà de la violence en lui, ce gamin. Quand il écrit à la Wakbar sur un carnet, c'est qu'il veut en découdre. C'est un cri guerrier à la Wakbar. Faut pas se voiler la face. Donc le gamin, il a déjà envie d'en découdre. À 12 ans, il est déjà énervé. Ça commence de plus en plus tôt. À 12 ans, il a déjà une colère en lui. Le prof le vire et le dénonce à la police. Vous croyez que cette colère va baisser ? Vous croyez que cette colère va s'apaiser ? Le gars, au lieu de faire de la pédagogie, de discuter avec ce gamin, de convoquer son père, de savoir ce qui se passe, de savoir qui lui a mis ça dans la tête, il le dénonce. Comme en 40, il appelle la police, il le dénonce. Venez le chercher, c'est lui. Même les flics, j'imagine la réaction des flics, vous venez de dénoncer un gamin de 12 ans, monsieur, vous êtes sérieux? C'est votre élève. Parlez-lui. Demandez-lui ce qui se passe. Demandez-lui pourquoi il est en colère. Vérifiez ses fréquentations. Convoquez son père, sa mère. Essayez de l'encadrer. Récupérez-le. Nous, on est la police. On n'est pas là pour faire du babysitting. Il a 12 ans, le gamin. Quel respect va avoir un gamin pour un prof qui l'a dénoncé? Une petite salope, une petite balance qu'il a dénoncé à la police. Déjà, à la base, les profs gauchistes ont une réputation d'hommes soja. Déjà, à la base, ils inspirent pas trop le respect. Aucun panache, aucune vigueur, aucune énergie. Si en plus, tu t'amuses à dénoncer les gamins, quel respect tu veux inspirer? Peut-être que le prof a paniqué. Ça devait peut-être être à la période où il y a un prof qui s'était fait égorger en France par un étudiant. Peut-être qu'il s'est dit « le prochain, c'est moi, faut que je fasse quelque chose, ce gamin, faut le dénoncer, on peut pas le laisser comme ça librement dans la nature. » Alors déjà, il a 12 ans. Bon, j'imagine que physiquement, il a le physique d'un gamin de 12 ans, à moins qu'il ait le physique d'un basketteur et qu'il fasse déjà 1m80 à 12 ans. Mais bon, s'il a un physique normal, un gamin de 12 ans, tu le maîtrises. 16, 17, 18 ans, c'est déjà autre chose. Il y a des adolescents. À 17 ans, il a déjà le physique d'un adulte, tu le maîtrises pas comme un gamin. Il est capable de violence, il est capable de te faire des choses. 12 ans, j'imagine que normalement, tu devrais pouvoir le maîtriser. Mais le prof a dû paniquer, c'est la seule peut-être petite excuse que je donnerais au prof, c'est qu'il a dû paniquer dans le contexte où il y a un prof qui s'était fait agresser, et il a dû se dire « le prochain, c'est moi ». Mais je vais te dire quelque chose, en agissant comme ça, en n'essayant pas de régler les problèmes, mais en balançant le truc à la police, en disant « occupez-vous de lui », je vais te dire quelque chose. Le prochain, ça risque d'être toi. Si c'est comme ça que tu gères les conflits avec tes élèves, le prochain, c'est peut-être toi. Donc, deux points cruciaux à comprendre. Les parents ne font plus leur travail et l'école ne fait plus son travail. Il n'y a aucune institution qui fait son travail aujourd'hui, ni la famille, ni l'école. Et donc ces gamins se retrouvent face à qui ? Face à Internet, face aux imams, face aux vidéos de radicalisation, face aux forums. Voilà comment on crée les futures générations de terroristes. La démission des parents, la démission de l'école. Autre chose pour la question des conversions de masse, mon auditeur me dit « mais je comprends pas ». Je comprends pas des chrétiens qui n'ont rien à voir avec l'islam, certains d'origine africaine, antillaise, on est dans les banlieues parisiennes, donc forcément, j'imagine que c'est beaucoup de chrétiens avec des origines extra-européennes, hein, les banlieues parisiennes, naturellement, la démographie fait que c'est des descendants d'ouvriers, donc d'ouvriers immigrés, et j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de Danois, de Suédois et de Scandinaves, hein, et ce que je dis, c'est ni méprisant ni raciste, c'est la réalité démographique des banlieues. C'est quoi une banlieue française ? C'est un endroit où on a tassé entre 1950 et 1970-80 des centaines de milliers d'immigrés venus travailler. Ils ont fait des enfants, ils sont restés au même endroit. Donc forcément, la démographie des banlieues est ce qu'elle est. Et ce que me dit mon auditeur, sans surprise, que ces convertis sont souvent des descendants d'Africains ou des Français d'outre-mer, donc d'origine et de culture chrétienne, qui se convertissent à l'islam au contact des musulmans des banlieues. Et la question de la conversion à l'islam, elle est assez facile à comprendre. Quand tu grandis dans une banlieue, que les parents ne représentent plus une structure, que le père est absent, que la mère est débordée, que l'école ne représente plus une structure, que le prof te dénonce à la police dès que tu gribouilles un truc sur un carnet, quand il n'y a plus rien qui t'encadre, quand t'as pas la chance de faire un sport, de faire de la boxe. Le sport a sauvé beaucoup de jeunes qui déviaient, qui commençaient à partir un peu dans ce délire religieux, ont rencontré des sportifs, ils ont commencé à faire de la boxe, du karaté, du judo, ils ont fréquenté un autre milieu et ça les a sauvés, ça a donné un sens à leur vie, ça les a sauvés, certains sont devenus des athlètes et le sport a sauvé des vies. Il y a deux choses qui sauvent des vies, il y a le savoir, il y a la connaissance et il y a le sport. Mais ceux qui n'ont pas eu la chance, qui n'ont eu aucune chance, ni d'être gâtés au niveau familial, d'avoir un père présent, une mère présente, ni d'être gâtés au niveau de l'école, de faire un bon collège, un bon lycée, ni d'avoir eu la chance de rencontrer un coach sportif, quelqu'un qui les a encadrés, quelqu'un, un modèle, un boxeur, un judoka, quelqu'un qui leur a donné envie de devenir quelque chose, et qui se retrouvent face à un vide existentiel tel, ils sont pleins de testostérone, pleins d'énergie, mais rien pour canaliser cette énergie, ben, qui les récupère? C'est le barbu. C'est le barbu en claquette, en djellaba, qui les récupère. Et pour lui, c'est un terreau fertile, c'est un terreau formidable. Pour les fondamentalistes, les banlieues, c'est un terreau formidable. Pourquoi? Parce que t'as des jeunes pleins d'énergie, pleins de testostérone, qui sont en colère, qui détestent tout, ils détestent leur famille, ils détestent l'école, ils détestent la France, ils détestent leur pays, ils détestent tout, parce que il y a rien qui leur donne envie d'aimer quoi que ce soit. Les gens disent « Ah mais les gamins de banlieue détestent la France ». Ils détestent tout. Ils détestent pas juste la France, ils détestent tout. Tu leur parles de leur mère, ils vont te dire « Je la déteste ». Leur père, il est pas là, je le connais même pas. Et si je le connais, je le méprise, parce qu'elle a jamais rien fait de sa vie. C'est un ouvrier, il est arrivé dans la banlieue, il n'en est jamais sorti, il n'a jamais rien fait de sa vie. Comment tu respectes ton père s'il n'a jamais rien réussi? Tu peux peut-être le respecter consciemment. Tu te fais croire à toi-même, oui, c'est mon père, je le respecte quand même. Mais inconsciemment, un loser est un loser. Si ton père n'a rien fait de sa vie, inconsciemment, c'est pas un modèle pour toi. Parce que lorsque ton père est un modèle, un imam en djellaba ne prend pas sa place. Quand ton père est un modèle qui a réussi, qui a fait des choses dans sa vie, un barbu en djellaba et en babouche ne prend pas sa place. La seule raison pour laquelle les barbus deviennent des modèles dans les cités, et quand je dis barbu, j'ai rien contre la barbe, hein, j'ai moi-même laissé pousser la barbe, c'est une façon d'identifier les radicaux des banlieues qui ont des barbes très spécifiques. Hein. Les extrémistes en général ont les fondamentalistes religieux ont des barbes qui ne sont pas entretenues. En général, c'est la barbe qui pousse de travers, il y a des antennes à droite, à gauche, c'est ni fait ni à faire. Quand tu le vois, tu lui demandes « C'est quoi le projet? Tu vas où avec cette barbe ? » Jusqu'où elle va descendre ? T'essayes de te faire un cache-sexe avec ta barbe ? C'est quoi le... On va où là ? C'est quoi le design ? Et donc le jeune perdu rencontre l'islam. Et comme je l'avais dit, la caractéristique de l'islam, c'est que c'est une religion extrêmement structurante. L'islam te prend en charge à tous les étages de ta vie. Tous les étages. Comment tu manges, comment tu t'habilles, comment tu te laves, comment tu parles, qu'est-ce que tu peux faire, comment ta femme doit s'habiller, comment tes enfants doivent s'habiller, comment traiter ta fille, comment traiter ton fils. Ce qui est incroyable avec l'islam, c'est que c'est une religion de prise en charge à tous les étages. Et donc, lorsque t'as pas de structure, comme je l'ai dit, père démissionnaire, mère démissionnaire, école démissionnaire, état démissionnaire, système démissionnaire, quand il y a personne qui s'occupe de toi, tu rencontres cette religion et tu te dis, putain de bon sang de merde, c'est carré ce truc. Et l'islam t'aime, t'aime pas, le truc est carré. C'est un code civil qui te gère ta vie de la naissance à la mort. Comment tu fais du commerce? Comment tu parles aux gens? Comment tu réponds à quelqu'un qui t'insulte? Comment tu traites le voleur? Comment tu traites l'adultère? Ça gère ta vie de la naissance à la mort. Et vous comprenez que le jeune, en mal de structure, en mal de modèle, qui rencontre cette religion, ne peut qu'y adhérer. Voilà les raisons du succès de l'islam. Vous n'entendrez ça nulle part ailleurs sur Internet. Vous n'entendrez personne faire cette analyse. Les gens parlent de radicalisation. Oui, la radicalisation, faut faire ci, faut faire ça, c'est pas bien. Nous, c'est la République. Nous sommes la République. L'école de la République. Tout ça, c'est de la branlette. Si t'as pas compris le rapport entre la jeunesse perdue et le caractère structurant de l'islam, t'as rien compris. Ta République, tu te la carres dans le cul. Ça ne fait pas le poids. Voilà où la République a perdu. Voilà où la France a perdu. Voilà où l'Europe est en train de perdre. Parce que ces institutions n'ont pas le pouvoir structurant de cette religion. Voilà le succès de l'islam, si vous ne l'avez pas compris. Cette religion prend un individu, un peuple, une société perdue et la structure de la naissance à la mort. À quelle heure tu te lèves? À quelle heure tu fais la prière? Qu'est-ce que tu peux manger? Des détails de malade. Des hadiths du type, lorsque tu manges, il faut un tiers de nourriture, un tiers d'eau et un tiers de vide. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais se goinfrer, il faut toujours laisser de l'espace dans son ventre. L'islam t'explique comment tu dois manger, comment tu dois te tenir à table. Il y a des détails de fou, c'est « je n'ai rien vu, je n'ai rien lu » de plus structurant et de plus précis. Voilà les raisons du succès de cette religion. Et la démission de tout le monde, l'abandon de la jeunesse, d'abord par leurs propres parents complètement débordés, souvent inéduqués, je l'avais dit dans ma vidéo précédente, l'immigration ouvrière du travail manuel est une immigration non éduquée qui n'a jamais réussi vraiment à encadrer ses enfants. Donc des enfants, des jeunes, plein d'énergie, plein de testostérone, abandonnés par tout le monde, strictement tout le monde, qui rencontrent, pour la première fois de leur vie, une structure. Ces jeunes ont soif de structure. Avant, il y avait le service militaire. Tu rentres à l'armée, t'apprends à faire ton lit, t'apprends à te tenir, t'apprends à parler, t'apprends à respecter l'autorité des aînés. Donc même si t'es un débile perdu, tu fais ton service militaire, tu sors, t'es plus le même. Aujourd'hui, il n'y a plus l'armée. Et autre chose, parce que l'argument qu'on pourrait apporter, mais l'observateur, il y a d'autres religions, ces gamins sont de culture chrétienne, pourquoi ils ne restent pas, ils ne demeurent pas chrétiens? Ben, si vous ne l'avez pas remarqué, la chrétienté, ça ne veut plus rien dire. Ça veut dire quoi aujourd'hui être chrétien? La chrétienté a lâché sur tout, elle a lâché sur l'avortement, elle a lâché sur la question du mariage pour tous, la chrétienté a lâché sur absolument tout. Ça ne veut plus rien dire d'être chrétien, puisque tout est permis. Être musulman, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que ta fille ne se balade pas à poil, ça veut dire que tu refuses la dégénérescence, ça veut dire que tu refuses de voir des hommes s'enculer sur un char de la gay pride, ça veut dire que tu rejettes le féminisme, ça veut dire quelque chose d'être musulman. Quand t'adhères à cette religion, t'as une identité, t'as un caractère, il y a des choses que tu refuses, des choses que t'acceptes. Quand t'es chrétien, t'acceptes tout. Et donc finalement, t'es plus rien. Un dogme, une religion qui accepte tout, qui est ouverte à tout, ben finalement, n'existe plus, c'est plus un dogme. Et c'est comme ça que l'islam se place de plus en plus au-dessus de tous les autres dogmes, parce que ça veut dire quelque chose. Ces gamins qui n'ont jamais réussi à se créer une identité, lorsqu'ils disent « maintenant je suis musulman, maintenant je suis musulman », ben, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'ils ne mangent pas de porc, ça veut dire qu'ils ne boivent pas d'alcool, ça veut dire qu'ils ne forniquent pas, ça veut dire qu'ils ne baissent pas des gonzesses hors mariage, du moins s'ils sont vraiment musulmans. Donc, c'est un caractère très fort, c'est une identité très forte. Et un jeune a besoin de modèles, il a besoin de se construire. Et voilà pourquoi ces jeunes deviennent musulmans, parce que pour la première fois de leur vie, ils ont une identité. Il n'y a rien d'autre qui leur a donné envie d'avoir une identité. Qu'est-ce qui va te donner envie? C'est quoi le modèle? Zemmour, 50 kilos, journaliste sur CNews. Vous avez compris que c'est un modèle pour personne. Ton prof, le végétarien qui bouffe du soja du matin au soir. Ça non plus, c'est pas un modèle. Ton père, ta mère, c'est pas des modèles. Ils ont tout raté. Ils vivent de la CAF, des aides sociales, ils habitent un logement social. Comment tu veux que ce soit un modèle? Et la raison pour laquelle ces jeunes délaissent le catholicisme ou le christianisme d'une façon générale pour l'islam, c'est la suivante. Je vais caricaturer, mais voilà la raison. T'as une religion qui te dit, si on te gifle une joue, tends l'autre joue. Voilà la religion du pardon. Si on te gifle, voilà, tu tends l'autre pour qu'on continue à te gifler. Et t'as une autre religion qui te dit, si on te gifle, tu montes une armée et tu te prépares à la guerre. Ça, c'est l'islam. L'autodéfense est autorisée. Elle est même glorifiée. Et c'est le seul sens, en réalité, du mot djihad. Le djihad n'est autorisé ou ne devrait être autorisé que dans un cadre de défense. Un Irakien qui se défend d'un Américain qui l'a envahi et qui te dit « moi, je fais le djihad », ça, c'est légitime. Quelqu'un qui vit en Occident, qui va tuer un innocent et qui te dit « moi, je fais le djihad », ça, c'est un débile. On n'est pas du tout dans un contexte de défense. On est dans un contexte d'agression. Tu viens de tuer un innocent. T'es un débile. T'es une tâche. T'es une merde. Ne pas confondre l'Irakien qui se défend parce qu'il a été envahi par une armée américaine, une armée étrangère qui l'a humilié, et quelqu'un qui vit en Occident, qui vit à Stockholm et qui va commettre un attentat. Ça, c'est un débile. Il n'y a aucun contexte qui justifie ça en Europe. Aucun. Et déjà, si t'es sur une terre non musulmane, tu devrais la quitter. Si t'es un musulman logique, un musulman rationnel, tu ne devrais pas vivre en terre chrétienne. Tu dois rentrer chez toi. Un musulman doit vivre en terre d'islam. Donc ils sont même pas cohérents avec leur délire. Je vis à Stockholm et je fais le djihad. Non, tu vis à Stockholm, rentre chez toi. Va dans ta terre d'islam si t'es un vrai musulman. Mais il faut dire que pour un jeune de 18 ans, bourré de testostérone, plein d'énergie, qui a envie d'en découdre, qui est en colère, l'option « je vais me battre » est quand même plus sexy que l'option « tend l'autre joue ». L'option « MMA » est quand même plus séduisante que l'option « tu tends l'autre joue, t'écartes les fesses, tu dilates l'anus ». C'est ça se comprend. Ça se comprend. Je comprends que les jeunes n'arrivent plus à adhérer au christianisme. C'est une religion qui a été détruite, détruite par le Vatican. Tu vois la dégaine des papes aujourd'hui, c'est des starlettes. Les papes sont des instagrammeuses, c'est plus des religieux. Et d'ailleurs, pour parler de MMA, le combat Khabib McGregor est une métaphore. Il est complètement représentatif de l'Orient traditionnel qui affronte l'Occident dégénéré. T'as McGregor qui arrive avec sa bouteille de whisky en conférence, qui fait le fanfaron, qui insulte Khabib, etc. Puis à un moment, il lui dit « Salam alaikum ». Salam alaikum, et Khabib répond « Ne me dis pas salam alaikum avec une bouteille de whisky entre les mains. Tu sais très bien que je suis musulman, ne fais pas ta pub, ne fais pas la pub de ton alcool pendant la conférence de presse avec moi. » Et Khabib a été apprécié et McGregor détesté parce que Khabib, ça représentait la modestie, la discipline, le sérieux, et McGregor, ça représentait la dégénérescence du monde occidental. Tatoué de la tête aux pieds, avec son costard, sa dégaine de petites frappes, de petits voyous, le whisky, le machin, et il se fait massacrer, il se fait déglinguer, il se fait humilier dans ce combat avec Khabib, l'un des plus grands combats MMA. Alors, il n'était pas spectaculaire parce qu'il a fini très vite, mais Khabib l'a corrigé, il lui a expliqué ce qu'étaient les bonnes manières. Et ce qui est impressionnant avec Khabib, c'est que c'est quelqu'un qui est toujours resté modeste. Il est millionnaire. Mais il a jamais perdu la tête. Je l'avais entendu dire dans une conférence, ou dans une interview plus précisément, « Je suis des montagnes du Daghestan et je retournerai aux montagnes du Daghestan. » Je l'ai jamais vu en Porsche, en Ferrari, en Ferrari FF. J'ai jamais vu Khabib faire ce genre de choses. Il y a que les kékés qui font ça. Donc voilà ce qu'il représente, symboliquement. L'Orient solide, traditionnel, respectable et respecté. Et pour répondre à mon auditeur, je dirais que à ce stade, quand son petit frère écrit Allahu Akbar sur son carnet, il faut considérer que le virus est dans la tête. À ce stade, le virus est déjà dans la tête. Et je ne pourrais pas le dire autrement, le fondamentalisme religieux, quel qu'il soit, c'est un cancer qui ne fait que se métastaser. Il n'y a rien de bon qui en sortira. Pour les gauchistes, les mélenchonistes, qui disent « oui, mais faut discuter, faut essayer de comprendre, tout n'est pas blanc ou noir, les choses sont plus compliquées qu'elles ne paraissent ». Non, non, c'est pas plus compliqué que ça ne paraît. Le radicalisme religieux est un cancer qui se métastase. Et il faut le traiter. Et le radicalisme, ça se traite par l'éradication. Essayez de comprendre qui sont ces fréquentations. Faut qu'il arrête de fréquenter les gens qu'il fréquente. Faut qu'il arrête d'aller sur les sites internet sur lesquels il va. Il n'y a pas d'autre remède contre le radicalisme. Il faut le supprimer. Et ensuite, l'éducation. L'éducation, s'intéresser à autre chose, s'intéresser à la science, aux maths, à la physique, à la musique, à autre chose, au sport. Et ma position, pour être clair, je n'ai aucune sympathie pour le radicalisme islamiste. Je ne fais pas partie des gens qui veulent négocier ou qui veulent discuter avec eux. Ma ligne, c'est celle de Vladimir Poutine. Il faut les combattre jusque dans les chiottes. Il faut les terminer. Il faut les nettoyer. Et pour ceux qui sont tentés de me dire « Ah, l'Observateur, voilà, t'es un islamophobe. Je savais que, dans le fond, t'étais un islamophobe. » Ma position, c'est la position de l'armée algérienne. L'armée algérienne est islamophobe. L'Algérie est un pays islamophobe. C'est l'armée algérienne qui dit « Il faut les exterminer et on va les exterminer. » Parole du général d'état-major algérien. Je ne suis pas un islamophobe, je suis juste plus proche d'un colonel pilote de MiG-29 dans l'armée algérienne que d'un islamiste. C'est aussi simple que ça. Et pour ne pas être complètement négatif sur cette question de l'extrémisme, on va dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est souvent cyclique. Il se trouve qu'aujourd'hui, l'islam est en crise, il se trouve qu'aujourd'hui l'islam connaît ces histoires de radicalisation, mais il y a 500 ans c'était tout le contraire, il y a 500 ans, 700 ans, c'était tout le contraire, l'islam en Andalousie était au sommet de son rayonnement, au sommet de la science, de la culture, de la poésie, des mathématiques, du savoir d'une façon générale, et c'est plutôt la chrétienté qui était torturée, c'était l'église catholique qui, pour survivre, a commencé à combattre toute forme d'hérésie. On l'oublie aujourd'hui parce que ça fait très longtemps quand même, hein. 500, 700 ans, c'est pas avant-hier. Mais il suffisait de dire « elle tourne » et pourtant « elle tourne » pour finir massacrée, en parlant de la Terre bien sûr, et pourtant « elle tourne » pour finir emprisonnée, massacrée, torturée. Pour la moindre parole contraire aux évangiles, tu finissais torturé et tué. C'est l'équivalent de la fatwa aujourd'hui. L'hérésie était un crime. La fatwa à côté, c'est de la rigolade. La fatwa dans le monde musulman, c'est quand tu dis quelque chose contraire au Coran ou quand tu dis des choses négatives sur le Coran. Par exemple, ce que je viens de dire, si je le dis à visage découvert, il y aura une fatwa sur ma gueule. Je vous le garantis. Il y aura un barbu dans un coin qui va dire « Ah, qu'est-ce qu'il a dit, lui ? Qu'est-ce qu'il... De quoi il parle ? Quoi ? Il a dit « Tu te le carres dans le cul ?» J'aurai une fatwa. J'aurai, je pense, avec ce seul podcast, 250 fatwas sur ma gueule. Et pour ceux qui sont tentés de rédiger une fatwa, je vais vous dire quelque chose. Allez tous vous faire enculer. Je vous nique la gueule du matin au soir. Allez tous vous faire enculer. Et finalement, tout ce problème qu'on appelle intégrisme, terrorisme, fondamentalisme, sa source, c'est la même. Je l'ai déjà dit, j'ai dû le dire plusieurs fois dans ce podcast. Sa source, c'est la même. C'est la démission des parents. C'est la démission des parents. Les parents feraient leur travail, il n'y aurait jamais de problème. Le nerf de la guerre, c'est l'éducation. Est-ce que cet auditeur devrait dire à son frère, ce qui fera de toi un homme, c'est pas... Des versets débiles d'il y a 14 siècles, c'est les maths, c'est la physique, c'est l'anglais. C'est une tête bien faite qui fera de toi un homme. Et moi, ma chance, c'est d'avoir eu des parents éduqués. Mes parents n'étaient pas riches. Je faisais partie de la classe moyenne, sans plus. Hein. C'était pas la misère, mais j'étais pas riche. Par contre, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu des parents éduqués. C'était important. À la maison, c'était important. Si t'avais une mauvaise note en maths, en physique, en anglais, c'était grave. Ça passait pas inaperçu, c'était grave, t'étais convoqué, mon père me parlait, il discutait avec moi quand j'avais une mauvaise note. C'était quelque chose de très grave. Et un moment de bascule dans ma vie, ça s'est passé à l'âge de 13 ans environ, et je n'oublierai jamais cet instant, j'ai dû avoir 7 ou 8 sur 20 en anglais. C'est à une époque où vraiment je m'intéressais pas à l'anglais, j'étais pas très bon. Pour moi, c'était une langue étrangère comme une autre. Et mon père m'a dit, viens ici. Viens ici, j'ai été terrorisé. Je me suis dit, ça va finir. Je vais me prendre une baffe, putain. Il a vu mon carnet 8 sur 20 ou 7 sur 20 en anglais. Et il me dit, je vais pas te frapper. Mais je vais te dire un truc. T'es une petite merde. T'es une petite merde. Et il continue, si tu parles pas anglais, tu ne feras jamais rien de ta vie. Et j'oublierai jamais cet instant parce que, en fait, te parler comme ça, c'est plus efficace que de frapper. Parce que du coup, il te parle comme un adulte et il te dit, t'as trahi la confiance que j'ai mis en toi. Voilà, t'es une merde. Comment tu peux être mon fils et avoir 7 sur 20 en anglais? C'est pas sérieux, c'est pas possible. Et mon père est un scientifique, je dirais pas ce qu'il fait, parce que c'est tellement une niche que si je vous donne la ville et la profession, vous arriverez à trouver son nom. À l'époque, il y en avait peut-être une dizaine comme lui, une dizaine de scientifiques, on va dire, entre guillemets, de son niveau. Donc lui, il voyait ça comme une honte. Son fils qui a 7 en anglais, ou même en maths ou en physique, c'est une honte. Et ce qu'il a fait, c'est qu'après cet épisode, il m'a payé des cours privés d'anglais. Je suis tombé sur un prof génial, une légende. Il était jeune, il devait avoir 26, 27 ans, et c'était un très bon prof d'anglais parce qu'il se refusait de parler en français dans les cours d'anglais. Pour lui, ou tu comprends l'anglais, ou tu dégages. Et ça, c'est les meilleurs profs. Il y a beaucoup de profs de langue qui sont un peu feignants et ils vont parler en français. En cours d'espagnol ou d'anglais, ils vont parler en français parce que c'est facile. Les très bons profs d'anglais, quand tu leur parles en français, ils te disent « je comprends pas ». On est en cours d'anglais, tu parles en anglais, je ne comprends pas ce que tu dis. Et donc, ils te forcent à communiquer en anglais, tu te démerdes, langage des signes, tu parles avec tes mains. Le gars, il est hermétique, il te parle en anglais et il attend que tu lui répondes en anglais. Et ce prof était tellement cool, il nous faisait écouter de la musique, il nous faisait écouter Pink Floyd, il nous faisait écouter Bob Dylan, il nous faisait traduire des textes. Et depuis, je n'ai plus jamais décroché, j'avais le virus de l'anglais. Et l'une des premières chansons que j'ai traduit pour apprendre, c'était Time, Temps, de Pink Floyd, l'une des plus belles chansons jamais écrites. Et pour mon petit plaisir, je vais vous lire les paroles, juste pour que vous puissiez mesurer à quel point c'est sublime. À un moment, t'as un couplet qui dit « and you run to catch up with the sun, but it's sinking ». Et tu cours pour rattraper le soleil, mais il plonge, il se couche. « Racing around to come up behind you again », faisant la course pour se lever à nouveau derrière toi. « The sun is the same in a relative way, but you're older ». Le soleil est le même d'une manière relative, mais toi, tu es plus vieux. « Shorter of breath, and one day, closer to death », à bout de souffle et une journée, plus près de la mort. « Every year is getting shorter, never seem to find the time. » Chaque année se fait de plus en plus courte, tu ne sembles jamais trouver le temps. Une chanson sublime, une chanson qui parle du temps qui passe, du côté éphémère de la vie, de cette vie que tu vois passer sans pouvoir l'attraper, de ce temps qui file sans que tu puisses le maîtriser, alors que t'es là, année après année, en train de traîner dans la même ville, au même endroit. Et pour conclure, je dirais à mon auditeur qu'il y a deux types d'hommes dans la vie. Il y a son imam, un petit merdeux hystérique qui répète les conneries qu'il a trouvées dans un livre vieux de 14 siècles, et il y a les hommes supérieurs, Roger Waters, David Gilmour, les auteurs de la chanson Time, qui se sont d'ailleurs rencontrés alors qu'ils étudiaient l'architecture à l'université de Westminster. Je ne savais pas, quand je les écoutais et que j'avais 13 ans, que je suivrais la même formation. Voilà ce qui sauve des vies. La musique, la connaissance, les langues, l'éducation. Et moi, ce qui m'a sauvé, c'est pas l'école de la République, c'est mes parents. Si j'avais pas eu le père que j'ai eu, je serais un petit merdeux comme tous les autres. Et si mon père ne m'avait pas alpagué à 13 ans, en me disant « t'es une petite merde, comment tu peux avoir 7 en anglais ?», jamais je me serais réveillé. J'aurais été comme tous les adolescents, j'aurais bricolé, j'aurais eu peut-être un jour 9, 10, j'aurais passé mon bac, j'aurais fait l'université, mais jamais j'aurais eu le virus de l'anglais, jamais je ne me serais intéressé à l'Angleterre, parce que la musique, naturellement, m'a mené à être fasciné pour l'Angleterre, pour cette nation de malades. Vous imaginez le même pays, un seul pays qui produit les Beatles, les Rolling Stones, les Pink Floyd, les Zeppelin, C'est incroyable, autant de talents concentrés dans une si petite géographie. C'est un pays incroyable. Et voilà comment tes parents te sauvent. Et voilà aussi comment les belles choses vous sauvent du radicalisme. Et pour moi, les solos à la guitare de David Gilmour sont plus en communication avec Dieu que le discours hystérique d'un religieux écrit par un bédouin entre deux gorgées de pisse de chameau, quelque part dans le désert d'Arabie. Que Dieu bénisse les Pink Floyd, que Dieu bénisse l'Angleterre.